Au XVIIIe siècle, quand toute l'Europe des Lumières parle encore français, c'est-à-dire l'Europe des intellectuels, des diplomates, des rois, des empereurs et même des cuisiniers, c'est dans cette douce campagne de la frontière franco-suisse que s'endort, mais d'un œil, un drôle de volcan. L'incontrôlable volcan de l'esprit, de l'impertinence, de la liberté, le grand, l'immense Voltaire. Il va mourir à Paris à 83 ans, mais c'est ici qu'il se retire quelques années auparavant, dans ce château-refuge récemment restauré au cœur d'un village baptisé en son honneur Ferney-Voltaire. L'homme s'appelle en fait François-Marie Arouet, mais pour l'Europe entière, il est Voltaire, le prince des philosophes, le poète sulfureux, l'historien engagé, l'auteur à 24 ans de la célèbre pièce Œdipe qui lui ouvre tous les théâtres. Mais c'est aussi l'amant passionné de femmes brillantes, dont Émilie du Châtelet, son grand amour. Courtisan de tête couronnée, il n'est jamais un féodé au puissant. Il ferraille contre l'hypocrisie, la superstition, l'injustice. Et tout en restant fidèle à Dieu, auquel il croit, il ne cesse de dénoncer les abus de l'Église. Voltaire est souvent ironique et féroce, avec un courage sans égal. Il paye ce caractère de quelques séjours à la Bastille, mais rien n'y fait. Il est libre. Un homme seul peut parfois changer le monde avec sa plume. Et Voltaire n'hésite pas à défendre des causes perdues comme celle de Jean Calas, le pauvre protestant de Toulouse, injustement condamné à mort et dont Voltaire va réhabiliter et le nom et l'honneur. Avec Voltaire, nous partons de roi en roi, comme il le disait lui-même, de Versailles, où il connaîtra trois souverains, à la Prusse, où il va rejoindre un temps Frédéric II. Un intellectuel engagé, c'est vrai, un amoureux passionné, bien sûr, mais aussi un original surprenant, toujours en avance de quelques siècles. Tenez, le voilà très tôt végétarien, refusant la viande à sa table, avec cet argument très voltairien et si lourd de sous-entendu, on ne mange pas ses semblables. Cet incroyable parcours s'achève en apothéose, en juillet 1791. 13 ans après sa mort, l'Assemblée nationale fait entrer Voltaire au Panthéon.
Vous écoutez Secrets d'Histoire, Voltaire ou la liberté de penser. Première partie.
Ce 11 juillet 1791 est une scène mémorable parce que le corps de Voltaire est porté au Panthéon.
Didier Massot, historien.
Et donc, avant d'arriver au Panthéon, il traverse tout Paris selon des étapes programmées.
La première, c'est la Bastille. Et puis après, Voltaire, homme de lettres, homme de théâtre, donc on passe par les grands théâtres parisiens.
Pierre-Yves Beaurepaire, historien.
Les troupes sont là, déclament des textes, font ses louanges.
Le cortège va s'arrêter aussi au moment le plus émouvant de son parcours.
François Bessire, président de la Société Voltaire.
Devant l'endroit où Voltaire est mort, c'est-à-dire l'hôtel de Villette qui est sur les quais des Théatins et qui deviendra le quai Voltaire ensuite.
Vous avez les cendres dans un cercueil, un sarcophage en porphyre. Donc on est vraiment dans la thématique antique, sur un char avec des chevaux blancs.
En avant, toute une garnison des canonniers et des tambours qui précèdent le convoi. Il y a des enfants qui sont là aussi.
Tant et si bien qu'un chroniqueur a même pu dire « c'était une véritable fête nationale ». C'est vraiment la fête de la nation retrouvée autour du corps de Voltaire.
Quand ils arrivent au Panthéon, c'est la nuit, et puis il manque quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que l'évêque qui devait consacrer l'arrivée de Voltaire au Panthéon est absent.
Parce que en tant qu'ecclésiastique, il ne voulait pas recevoir la dépouille d'un homme qui avait combattu l'Église tout au long de sa vie.
Evelyne Levert, historienne.
Après avoir traversé Paris, la dépouille de Voltaire entre au Panthéon. Il devient un grand homme.
David Madec, administrateur du Panthéon.
Il entre dans ce monument, construit pour être une église et transformé en Panthéon, pour lui. Le tombeau de Voltaire est constitué à partir du catafalque qui avait traversé Paris. Il est important surtout pour toutes les inscriptions qui montrent l'importance du grand homme, historien, philosophe, poète. Mais c'est aussi la reconnaissance par l'Assemblée nationale du génie immortel de Voltaire. Alors il a une place tout à fait particulière, d'abord physiquement, il est dans l'avant-crypte du monument. Les autres grandes femmes et grands hommes sont dans des caveaux plus classiques. Et donc c'est celui devant lequel tous les autres grands hommes et grandes femmes passent avant d'entrer au Panthéon. Voltaire sera rejoint en 1794 par Rousseau, clin d'œil de leur amitié fanée en quelque sorte. Ils se font désormais face dans le monument. Alors c'était un peu chamaillé sur la fin de leur vie, mais pour l'Assemblée nationale d'alors, ce sont les deux philosophes qui ont éclairé les lumières et porté la liberté. À la Restauration, il y a à nouveau une transformation du monument qui redevient église. Il est à ce moment-là question de sortir Voltaire de ce qui est redevenu l'église Sainte-Geneviève. Et Louis XVIII a cette phrase sur Voltaire, « Laissez-le, il sera bien puni d'entendre la messe tous les jours. » Et donc Voltaire est un peu déplacé, mais il reste dans le monument.
Voltaire est aujourd'hui la plus ancienne personnalité à demeurer au Panthéon. Au moment de son intronisation en juillet 1791, la France connaît une situation historique inédite. La prise de la Bastille a eu lieu 2 ans plus tôt, mais la République n'est pas encore proclamée.
La Révolution, je cherche des héros nouveaux, qui ne soient pas des saints, qui ne soient pas des rois, qui ne soient pas des hommes de guerre. Et donc elle s'est mise à chercher des hommes de l'Ancien Régime, déjà morts, mais qui ont annoncé d'une certaine façon la Révolution.
Voir en Voltaire l'artisan de la Révolution, c'est à la fois juste et faux.
François Jacob, biographe.
C'est juste parce qu'il est évident que les idées qu'a défendues Voltaire ont été le socle sur lequel s'est fondée la Révolution. Mais c'est faux sur le plan historique, car Voltaire est un homme d'Ancien Régime qui n'a jamais sans doute pensé que la monarchie pût être renversée.
Voltaire était attaché à la monarchie, à condition que la monarchie soit constitutionnelle et qu'elle soit tolérante. Mais il n'était absolument pas républicain.
C'est aussi l'un des philosophes les plus talentueux du XVIIIe siècle que l'Assemblée nationale vient ainsi couronner. Un esprit bouillonnant qui contraste avec son physique.
Autant Voltaire apparaît malingre, faible, chétif sur le plan physique, autant sur le plan intellectuel est-il intelligent, vif, l'œil alerte.
Le regard chez Voltaire, c'est essentiel. C'est un regard qui capte tout et c'est un regard qui rend tout ce qu'il a vu. Et il a évidemment des possibilités intellectuelles extrêmement vastes. C'est l'homme des Lumières dans tous les sens du terme.
C'était un aventurier, il a eu une vie d'aventurier.
Philippe Solers, écrivain.
Très agité, très clandestine, se battant sans arrêt, comme étant en guerre sans arrêt.
C'est quelqu'un qui avait quand même une prestance, sans doute assez grande, et qui entretient, on peut dire aussi, une espèce de tradition avec sa grande perruque Louis XIV, et qui est complètement démodée. C'est un personnage singulier, Voltaire.
Sur le plan de sa personnalité, Voltaire a toujours été certain de sa propre valeur. Il a toujours su qu'il était, parmi les plus grands, quelqu'un qui peut apporter beaucoup à ses contemporains.
La reconnaissance obtenue au Panthéon, Voltaire l'a cherchée dès les premières années de sa vie. Celui qui ne s'appelle pas encore Voltaire, mais François-Marie Arouet, n'a pas d'ascendance aristocratique. Aussi tente-t-il très tôt de faire oublier ses origines.
François-Marie Arouet est né en 1694, c'est-à-dire à la fin du règne de Louis XIV. Il est né presque mourant. On a pensé qu'il ne vivrait pas. C'était un pauvre petit être chétif. Et finalement, il a très bien résisté.
Son père appartient à la bourgeoisie et son père a été notaire. Il est receveur à la Cour des comptes. Il s'agit donc d'une bourgeoisie relativement aisée, certes, mais qui non plus n'est pas, ne roule pas sur l'or.
La mère de François-Marie meurt alors qu'il n'a que 6 ans. Élevé par son père aux côtés d'un frère et d'une sœur aînée, le jeune garçon bénéficie d'une formation exceptionnelle. À 10 ans, il entre au collège Louis le Grand, l'établissement le plus prestigieux du royaume, dirigé par les jésuites.
Louis le Grand est un endroit où sont scolarisés à la fois les fils de la bourgeoisie et également les fils de la plus haute noblesse. Et le jeune Arouet a un instinct extrêmement sûr pour déjà se faire des relations.
Je pense par exemple, pour un exemple parmi d'autres, aux frères d'Argenson qui vont accéder au pouvoir. L'un sera ministre des Affaires étrangères, l'autre ministre de la guerre. Donc il rencontre tous ces gens qui vont avoir un avenir prestigieux et bien sûr, ces alliances lui permettront d'avoir des réseaux dans les milieux les plus élevés.
Si François-Marie n'est pas aussi bien traité que certains de ses camarades, il va rapidement se distinguer par son intelligence.
Les jeunes aristocrates ont, pour certains d'entre eux, une chambre particulière avec leur domestique, avec leur préfet particulier. Et le jeune Arouet, lui, est condamné à partager la chambrée avec 15, voire 20 de ses condisciples. Les matières qui sont enseignées à Louis le Grand, c'est de la dissertation en latin, écriture de poèmes en latin également, versification. Voltaire est particulièrement doué dans ses exercices d'amplification, dans ses exercices qui mettent en jeu un sens de la rhétorique, et c'est ainsi qu'il se fait déjà remarquer.
Il reste un témoignage de ce talent d'orateur du jeune Arouet. Un ouvrage conservé à la Bibliothèque nationale de France, à la réserve des livres rares.
Alors, nous sommes en présence ici d'un objet extrêmement touchant, qui est un livre d'étrenne qui a été offert au jeune François-Marie Arouet en janvier 1710. Donc, il a 16 ans, il a eu le premier prix d'éloquence latine.
Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France.
C'était le meilleur latiniste de son collège et en récompense, on lui offre ce très gros livre d'histoire avec le monogramme de la Compagnie de Jésus sur le plat. On retrouve à la première page un diplôme puisqu'il a eu les meilleurs résultats et il va signer, c'est son tout premier autographe, Franciscum Arouet, François Arouet en latin. C'est un volume qu'il ne va pas garder durant toute sa vie, puisque l'on retrouve, page 655, un vers inédit de Voltaire, « De ma gloire passée, illustre témoignage, pour 52 sols, je t'ai mis en otage. » C'est-à-dire qu'à un moment, il a eu besoin d'argent, et il l'a mis en gage pour 52 sols. Il ne l'a plus jamais récupéré. Il est passé ensuite entre les mains de collectionneurs jusqu'à arriver ici, à la Bibliothèque nationale de France. C'est un document qui est extrêmement touchant puisqu'il s'agit très probablement du premier autographe de Voltaire connu. On n'en connaît pas de plus ancien. C'est la première fois qu'il signe quelque chose. C'est la première fois aussi qu'il a une fierté finalement un petit peu d'auteur ou de penseur puisqu'il vient de gagner un concours d'éloquence. Donc c'est la naissance de sa carrière finalement de penseur à laquelle on assiste. C'est véritablement une relique.
À Louis le Grand, François-Marie doit se plier aux cérémonies liturgiques qui rythment la journée. Mais il bénéficie également de l'enseignement des jésuites, caractérisé par une grande ouverture sur le monde.
Il s'agit de former ce que nous appellerions aujourd'hui un véritable citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui est profondément chrétien, bien entendu, mais qui est ouvert sur la réalité de son époque. D'où l'importance des voyages, de l'histoire, d'où l'importance de cette ouverture constante, et bien entendu du théâtre. Le théâtre, c'est une ouverture sur la cité.
Le le jeune Arouet prend goût au théâtre. Il joue, non pas des comédies, mais des tragédies. Et là, Voltaire s'épanouit déjà et il pense certainement à écrire.
La personnalité du futur Voltaire se façonne également au contact de son parrain, l'abbé de Châteauneuf, un homme d'esprit, membre de la Société du Temple. Un monde à part dont François-Marie aurait fait la découverte dès l'âge de 13 ans.
L'abbé de Châteauneuf l'introduit dans la Société du Temple, qui est une sorte de microcosme en plein Paris. Et ça représente tout ce que va aimer Voltaire. Le côté aristocratique, mondain, libertin, le bon mot.
On y converse, on y fait des poèmes, on y festoie un petit peu. Bref, c'est une société épicurienne, c'est une société qui vit pour le plaisir et également pour la libre pensée.
C'est un milieu ouvert, très différent de celui des jésuites, dans lequel circulent des gens qui ont des positions beaucoup plus radicales, notamment contre la religion, beaucoup moins conformistes. Et donc c'est important pour le jeune Arouet, ce milieu-là, parce que ça lui ouvre des horizons nouveaux.
Mais les nouveaux horizons du jeune garçon ne s'arrêtent pas là. Son parrain lui fait rencontrer l'une de ses vieilles amies, Ninon de l'Enclos, célèbre courtisane, qui est alors très âgée.
Il n'est pas très séduit par Ninon. Il dira qu'elle était comme une vieille momie complètement desséchée. Et Ninon, quand même, qui était une femme aussi de grande culture, se rend compte que l'adolescent qu'elle voit est un adolescent d'une intelligence exceptionnelle et elle lui laisse, par son testament, un petit pécule.
Avec cet argent, François-Marie ira s'acheter des livres. Car son choix est fait. Il n'est pas question de suivre la carrière toute tracée par son père. Son milieu bourgeois est désormais trop étroit pour son ambition.
Lorsque le jeune Arouet sort de Louis le Grand, il ne s'appelle pas encore Voltaire, mais il est déjà dans la logique du futur Voltaire. Il veut déjà être un homme de lettres. Il veut déjà être un homme de plume.
Évidemment, c'est pour son père, c'est vraiment scandaleux, parce que les poètes, ce sont des crèves-la-faim. Ce n'est pas un métier que d'être poète.
Son père le voit faire son droit, son père le voit peut-être notaire, et lui veut rentrer dans le domaine des belles lettres. Donc il y a une première forme de rejet de son père.
Et ça va même jusqu'à s'inventer une origine aristocratique, puisqu'il dira qu'il n'est pas le fils de son père, et que son vrai père est un certain Rochebrune, qui est un aristocrate, qui est peut-être quelqu'un qui faisait des vers, et qui aurait donc été l'amant de sa mère. Et il le dit, comme ça, ça lui plaît tout à fait, il n'y a absolument aucune honte à dire ça. Il préfère passer pour un bâtard prestigieux que pour un enfant légitime médiocre.
C'était une fiction qui lui permettait de mettre à distance sa propre origine et qui montre à quel point il est travaillé par cette question de s'inventer lui-même, de s'inventer autre que là où le hasard de la naissance l'a placé. On est dans ce que les psychanalystes appellent l'auto-engendrement. On ne dépend de personne, on n'est pas le fils de ses parents, on est soi-même, on s'est fait soi-même.
Lorsque Voltaire achète le château de Ferney, il fait détruire l'ancien bâtiment qu'il juge démodé pour en construire un nouveau. Voltaire reçoit énormément. Des philosophes, bien sûr, comme d'Alembert, l'un des auteurs de l'encyclopédie, mais également son ami, le mathématicien Condorcet, ainsi que l'acteur Lequin, qui joue dans de nombreuses pièces de Voltaire. Mais il y a une personnalité qui n'est jamais venue ici à Ferney. C'est Jean-Jacques Rousseau, son pire ennemi. Ce qui est amusant, c'est de voir dans ce vestibule la statue de Jean-Jacques Rousseau qui trône tout à côté de celle de Voltaire. Ces deux philosophes s'affrontent parfois violemment, sans jamais se rencontrer. Tous les opposent, autant les idées que le caractère. Mais l'un et l'autre connaissent la valeur de leur adversaire. D'ailleurs, sur ces représentations, ils tiennent des livres à la main, ce qui rappelle qu'ils ont été les deux hommes de lettres les plus illustres du siècle des Lumières. Voltaire soigne les réceptions et les dîners qu'il donne à Ferney. L'art de recevoir est essentiel pour le philosophe. Il emploie 5 domestiques. Le cuisinier,
qui s'appelle Bonne Sauce, est l'un des employés les mieux payés de la maison. Généralement, après le dîner, Voltaire convie les plus intimes de ses invités dans sa bibliothèque pour leur lire des passages de livres contre la religion, car c'est le combat de sa vie. Le château de Ferney conserve les œuvres complètes de Voltaire. Dans cet ouvrage, sa pièce de théâtre intitulée « Œdipe », sa première création. Pour ses débuts, Voltaire s'attaque à la tragédie, un genre très en vogue à l'époque. Notez au passage que le choix d'Œdipe pour un jeune homme qui renie ses origines paternelles et qui cherche à tuer le père ne doit sans doute rien au hasard. C'est donc avec le théâtre qu'il a découvert au collège Louis-le-Grand que Voltaire se fait un nom. Il pense d'ailleurs qu'il passera la postérité grâce à ses tragédies. Mais vous allez voir que cela ne suffit pas à le faire accepter dans la cour des grands.
À 19 ans, le jeune Arouet fréquente les salons parisiens, où son esprit le rend vite populaire. Il devient un habitué de la cour que tient la duchesse du Maine, au château de Sceaux.
Il y a ce qu'on appelle en particulier les nuits de Sceaux, qui sont des nuits de fête, pourrait-on dire d'orgie, dans lesquelles tous les invités se livrent à toutes sortes de plaisirs littéraires, notamment théâtraux, musicaux.
Alors le jeune Arouet, c'est un petit bout en train dans cette société. Il improvise des poèmes, il dit exactement ce que ses grands seigneurs ont envie d'entendre.
Et il est grisé par ce succès mondain qu'il rencontre à Sceaux, qui fait qu'à un moment donné, là où il devrait s'arrêter, eh bien, c'est plus fort que lui.
Il se révèle un esprit extrêmement mordant, extrêmement facétieux, qui peut devenir méchant.
Les flèches du jeune Arouet atteignent une cible qu'il ne fallait surtout pas viser, Philippe d'Orléans. Depuis la mort de Louis XIV en 1715, et en attendant que le jeune Louis XV soit en âge de gouverner seul, c'est lui qui assure la régence du royaume. Un homme tout-puissant qui inspire au futur Voltaire des vers lourds de conséquences.
Ce poème est dramatique parce qu'il accuse le régent d'avoir fait mourir par le poison les petits-fils de Louis XIV pour approcher au plus près du pouvoir, et il l'accuse aussi d'avoir des relations sexuelles avec sa fille, la duchesse de Berry. Ce poème « Puero Regnante » est tellement effrayant que Voltaire va se retrouver à la Bastille.
Incarcéré le 16 mai 1717 à 22 ans, François-Marie Arouet restera enfermé 11 mois. Mais ses conditions de détention sont loin d'être aussi terribles qu'on l'imagine.
Le jeune Arouet est dans un quartier qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de VIP de la Bastille, où vous soupez avec le gouverneur, où l'on vous rend visite, où l'on vous écrit, où vous préparez votre sortie, parce que si on vous a en Bastille, c'est que vous comptez. C'est une formidable source de publicité. Ça vous place sur le devant de la scène.
C'est d'ailleurs à ce moment de sa vie que le jeune Arouet décide de se trouver une signature à la mesure de sa gloire future et d'en finir avec son nom, devenu un fardeau.
Si on prononce à la façon de l'époque Arouet, c'est-à-dire celui qui est Arroué, c'est-à-dire celui qui est sur un échafaud, ce qui est vraiment très humiliant.
Évidemment, on ne peut pas arriver à l'immortalité avec un nom pareil. Il en a sans doute pris conscience très vite et donc s'est fait appeler Voltaire.
Ce nom est particulièrement efficace bisyllabique, animé par un mouvement.
Parce qu'il y a volt là-dedans. Et volt, eh bien, c'est ce qui danse, c'est volvere.
C'est l'invention d'une marque, c'est l'invention d'un nom. Tout à fait remarquable, un travail de communication, on dirait aujourd'hui, étonnamment réussi.
Le jeune homme profite également de sa détention pour mettre la dernière main à ce qui sera sa toute première œuvre, Œdipe, une pièce de théâtre que l'illustre troupe de la Comédie-Française a accepté de jouer. Mais à sa sortie de prison, les répétitions et surtout les ultimes remaniements qu'il apporte à son texte provoquent des conflits avec les comédiens.
L'actrice nommée Mademoiselle Déma refusait catégoriquement de recevoir les nouveaux vers que Voltaire lui envoyait, mais était fort gourmande. Voltaire lui envoie donc des petits pâtés. Elle ouvre les petits pâtés pour les manger et à l'intérieur se trouvaient les nouveaux vers que Voltaire voulait lui faire apprendre. Tout le monde, bien entendu, a ri de cette aventure et les vers ont été appris et les petits pâtés mangés.
La première d'Œdipe se tient le 18 novembre 1718. Le tout Paris se bouscule pour assister à la pièce du jeune auteur à la réputation sulfureuse. Même le régent, auprès duquel Voltaire a fait amende honorable, est présent. Le théâtre fait salle comble, comme en témoigne ce précieux registre conservé dans les archives de la Comédie-Française.
On apprend qu'à cette première représentation, on avait loué 17 loges basses, 7 loges hautes.
Agathe Sanjouan, conservatrice archiviste de la Comédie-Française.
Ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans les places où le public UP venait, les gens de la cour notamment.
Autre place que l'on s'arrache pour ce soir de première, celles qui sont installées directement sur la scène. Une pratique étonnante à nos yeux, mais qui obéit aux conventions de l'époque.
Comme il y a un usage social du théâtre, c'est les places les plus prestigieuses. Puisqu'on va au théâtre, en fait, pour, aussi bien pour voir un spectacle, mais aussi pour se montrer, pour se faire voir. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est le nombre de billets à une livre, qui sont les places au parterre. Et là, on a 508 billets, donc 508 personnes qui sont debout. Donc c'est une représentation qui fait le plein au théâtre. Et évidemment, la recette s'en ressent. 2743 livres, c'est une recette très importante. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette recette ne baisse pas. C'est-à-dire au fil des représentations, on a toujours des recettes très élevées. Donc là, par exemple, deux jours plus tard, on est toujours à 2520 livres, ce qui est considérable.
Œdipe est joué 45 fois d'affilée à la Comédie-Française. Grâce à ce triomphe, Voltaire, à 24 ans, commence enfin à vivre de sa plume. Ses désirs de gloire se voit du même coup assouvi.
Le succès d'Œdipe est quelque chose d'essentiel pour Voltaire parce que ça le confirme que c'est un grand auteur de théâtre, classique, tragique.
Auteur désormais reconnu, Voltaire goûte aussi la compagnie des nombreux amis qu'il s'est fait au sein de la noblesse. Parmi eux, Jean-René de Longueuil, à qui il rend fréquemment visite au château de Maison, situé aujourd'hui au cœur de la ville de Maisons-Laffitte. Une demeure qualifiée de chef-d'œuvre par Voltaire lui-même et que l'on doit à l'architecte François Mansart. C'est ici que Voltaire travaille à l'écriture de la Henriade, le poème épique qu'il consacre à Henri IV. Lors d'une lecture dans la grande salle du château, il n'hésite pas à solliciter l'avis des invités présents.
Certains des participants se prennent au jeu et se permettent un certain nombre de critiques. Manifestement, Jean-René de Longueuil n'est pas le dernier à jouer à ce jeu.
Virginie Gaden, administratrice du château de Maison.
Au fur et à mesure, Voltaire s'énerve et d'un geste brusque, il prend ses manuscrits et les jette dans la cheminée d'un geste rageur. Fort heureusement, un des convives se dépêche de rattraper ce manuscrit pour le restituer à Voltaire.
Mais l'une de ses visites au château de Maison est aussi l'occasion d'un épisode dramatique. Voltaire contracte une maladie potentiellement mortelle, la variole.
Voltaire est donc installé confortablement dans cette chambre, elle est chauffée, on fait venir un médecin particulier qui vient des environs de Paris, qui se déplace exprès pour soigner Voltaire. Il lui administre d'ailleurs toutes sortes de médicaments un peu curieux, il lui fait ingurgiter, je cite Voltaire, 200 pintes de limonade. Voltaire lui-même s'étonne de ce traitement, les semaines passent et peu à peu, il retrouve la santé.
Voltaire a à peine quitté le château qu'un feu prend sous la cheminée de sa chambre, resté constamment allumé pendant les semaines de sa maladie. L'incendie ravage les lieux, mais ce coup du sort n'entamera pas l'amitié solide qui le lie à Jean-René de Longueuil. Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Secrets d'Histoire sur les réseaux sociaux. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production pour France Télévisions. Cet épisode a été écrit par Marie-Laurence Reims. Il a été réalisé par Marie-Laurence Reims et Xavier Lefebvre. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assisté de Marie Agassan. Montage Camille Legras avec la voix d'Isabelle Benadj.